Bienvenue, chers auditeurs, dans une toute nouvelle saison d'État d'âme. État d'âme vous fait vivre des moments forts avec des témoignages de femmes exceptionnelles et des conseils précieux de spécialistes de santé. Mais cette saison, préparez-vous à être transporté encore plus loin par État d'âme Stories. Ce sont tout simplement des récits fictifs, des histoires captivantes qui vous bouleverseront, des situations auxquelles vous pourrez vous identifier. Ces histoires, façonnées par ma plume, vous plongeront au cœur des défis, des victoires et des émotions de la vie quotidienne des femmes. Avec derrière chaque histoire, un message important, je vous invite à écouter attentivement, à apprendre et à grandir avec chaque épisode. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de cette saison spéciale qui déploie ses ailes pour vous offrir un contenu unique en son genre. État d'âme Stories. Chaque histoire est une leçon, chaque femme est une source d'inspiration. Restez à l'écoute, vous êtes sur État d'âme. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'État d'âme. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Élise, une femme exceptionnelle qui partage son parcours bouleversant. Depuis sa grossesse, elle a commencé à ressentir l'épuisement moral et physique, car elle menait une vie à 100 à l'heure jusqu'à son congé maternité. Une consultation chez une pédopsychiatre a ouvert la voie à une exploration profonde de son passé, révélant des moments de sa vie qui ont profondément façonné sa parentalité. Élise nous livre une narration captivante, une chronique de sa grossesse, au milieu des épreuves familiales, du retour au travail, au milieu de relations toxiques et de la recherche d'un équilibre qui semblait insaisissable. À travers ces mots poignants, Élise nous invite à réfléchir sur la pression des schémas familiaux, la responsabilité parentale et la nécessité de briser le cycle des sacrifices imposés aux femmes. Elle a trouvé la force d'écrire son histoire pour se libérer des poids du passé et offrir à sa fille une mère épanouie. Restez à l'écoute pour une conversation profonde sur la reconstruction personnelle, la recherche de son authenticité et le pouvoir de l'introspection dans le voyage vers une maternité épanouissante. Excellente écoute. Bonjour Élise, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour Stéphanie, et merci du coup de me donner la parole sur ton podcast État d'âme.
Ben, je t'en prie, c'est avec plaisir. Alors Élise, comment s'est passé le début de ta maternité?
Alors j'ai appris que j'étais enceinte quand ma mère venait de nous annoncer qu'elle avait un cancer. Donc tout au long de ma grossesse, j'ai vécu les opérations de ma mère, la peur, le soutien. Forcément, ça a eu un fort impact émotionnel pour moi. Puis vers mes 4 mois de grossesse, la mère d'une de mes meilleures amies est décédée subitement. Donc, encore une fois, un choc émotionnel important. Et puis à nouveau, autour des mères et de la maternité. Donc, je vivais ce deuil qui m'impactait déjà moi. Et puis ensuite, je me devais d'être présente et en soutien pour mon amie, du coup, pendant de longs mois ensuite et pendant toute ma grossesse. À côté de ça, je travaillais beaucoup, puisque j'étais responsable d'une équipe de plusieurs collaborateurs dans la construction. Et j'avais en plus une chef assez difficile qui me mettait la pression dans un rapport toujours conflictuel entre agressivité et paranoïa. Donc j'ai bossé comme ça, comme une folle, jusqu'à mes 7 mois et demi de grossesse. Je continuais à faire toutes mes réunions de chantier en allant de Saint-Denis à Alfortville, tout ça en transport en commun, bien sûr, comme si de rien n'était finalement. Et puis j'ai enfin été en congé mat. J'ai pu me poser, j'ai pu souffler. Et ma fille est arrivée quelques semaines après. Donc l'accouchement s'est pas trop mal passé, mais déclenché, donc 48 heures de travail. Je suis ressortie épuisée. Et bien sûr, nous étions en plein Covid. Donc les nuits seules à l'hôpital qui ont été vraiment dures moralement. Je pleurais beaucoup. Et j'ai vraiment ressenti l'effet d'une chape de plomb qui venait se refermer sur moi en prenant conscience de la responsabilité qui était devenue la mienne. En fait, c'était vraiment la tempête émotionnelle pour moi. J'étais seule et je ne savais pas m'occuper d'un enfant. Et puis, malgré tout ce qu'on peut dire, j'avais la sensation de ne pas vraiment connaître ma fille, en fait. J'avais la sensation désagréable de ne pas répondre à l'injonction d'amour d'une mère pour son enfant. Comme si, le bébé est là et ça y est, on l'aime. Et en fait, c'était pas du tout aussi simple que ça pour moi. J'avais ce petit bébé dans les bras qui, bien sûr, m'attendrissait. Et en plus, on avait partagé mon corps ensemble. Mais j'avais tout à apprendre d'être une mère. Et j'avais tout à apprendre d'elle. Je ne savais pas être sa maman à elle. Et j'avais vraiment l'impression qu'il fallait qu'on fasse connaissance, en fait, pour s'appréhender un peu toutes les deux. Donc, c'était un moment de grande vulnérabilité pour moi. J'ai vraiment eu l'impression de redevenir une petite fille de 8 ans à qui on demandait d'être maman, finalement. Donc, le lendemain, je me suis mise à appeler toutes les sages-femmes d'Île-de-France et de Navarre pour trouver un rendez-vous absolument pour que la maternité m'autorise à sortir le plus rapidement possible.
Alors, il est tout à fait normal hein, de ressentir différentes émotions après l'accouchement, y compris celles qui entourent le lien avec le nouveau-né. Il est important de comprendre que devenir mère, c'est un processus qui se développe avec le temps. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont senties ou se sentent actuellement comme une petite fille de 8 ans à qui on demande d'être mère. Peut-être aussi est-ce en lien avec l'enfant intérieur qui n'a pas forcément guéri de certaines choses, je ne sais pas. En tout cas, pour les femmes qui vivent actuellement cette situation et qui ont ce sentiment de culpabilité, vous ne devez pas vous sentir coupable. Car ce sont des sentiments normaux que beaucoup de femmes ont, je vous rassure, vous n'êtes pas seule. Il faut savoir que la naissance d'un enfant, c'est une expérience transformative. Il est tout à fait naturel que le lien entre vous et votre bébé ne soit pas instantané. Chaque maman vit cette transition à sa manière. Il n'y a pas de règle stricte pour ressentir ce lien dès le départ. Le fait que vous ne ressentiez pas immédiatement un lien fort, ça ne signifie en aucun cas que vous n'allez pas développer un amour profond et une connexion avec votre enfant au fil du temps. C'est un voyage qui nécessite du temps, de la compréhension et de la patience. Apprendre à connaître votre bébé, à comprendre ses besoins. Donc apprendre à connaître votre bébé, à comprendre ses besoins, ses préférences et sa personnalité unique, ça prend du temps. La métaphore « on ne naît pas mère, on le devient », eh bien ça reflète bien cette réalité. Être parent, c'est une aventure continue de croissance personnelle et d'adaptation à la vie avec un nouveau-né. Surtout, il faut vous donner le temps de vous ajuster à ce nouveau rôle et vous rappeler que chaque étape de ce processus est une opportunité d'apprentissage. Si vous ressentez le besoin de partager vos sentiments avec quelqu'un, surtout n'hésitez pas à en parler à votre entourage, à des amis proches ou même à des professionnels de santé mentale. Il est essentiel en tout cas de se sentir soutenu pendant cette période de transition. Soyez douce avec vous-même, vous êtes en train de grandir en tant que mère. Et ça prend du temps. Votre amour et votre connexion avec votre bébé se renforceront au fur et à mesure que vous avancerez dans cette incroyable aventure qu'est la maternité.
Et ensuite, retour à la maison, mon mari était là et on a pris nos marques ensemble. Voilà, doucement, mes émotions se calmaient, on s'entraidait beaucoup et puis on apprenait tous les deux à être parents. Mais au bout de 3 semaines, lui a dû retourner au travail. Donc, encore un coup dur pour moi parce que je me retrouvais à nouveau seule et je devais gérer ma fille alors que je n'étais pas encore très sûre de moi. J'avais encore pas mal de peur, pas mal de doutes. Et puis, j'avais des moments de grand vide intérieur où j'avais l'impression de réaliser la nouvelle vie qui était la mienne. Et que je pouvais plus faire marche arrière et que je devais faire face et que je devais répondre aux besoins de cet enfant, quel que soit mon état émotionnel et ma fatigue. Donc voilà, j'ai fait du mieux que je pouvais et puis le temps est passé, je me suis sentie de plus en plus à l'aise dans mon rôle de maman. J'ai créé le lien avec ma fille des moments qu'on passait ensemble. Et puis elle grandissait. Donc, c'était déjà un peu moins impressionnant que les débuts de nourrisson. Et puis, est arrivé le moment où moi aussi, j'ai dû reprendre le travail. Donc, ma fille avait 2 mois et demi à ce moment-là. Et bien sûr, je n'avais pas de mode de garde, puisqu'une place en crèche, c'est un luxe, visiblement, en Île-de-France. Donc, j'ai dû demander de l'aide à ma mère. Ma mère qui s'était arrêtée de travailler depuis son cancer, en attendant de trouver une autre solution. Donc, c'était pas facile. Je me suis beaucoup culpabilisée de laisser ma fille alors qu'elle était si petite. Et puis, d'acculer ma mère qui était quand même en arrêt maladie pour rémission et qui n'était pas censée être ma babysitter à plein temps, quoi. Donc pendant plusieurs mois, je suis allée au travail sans trop savoir ce que je faisais là et pourquoi je n'étais pas auprès de ma fille à m'occuper d'elle. Et puis finalement, assez vite, au bout de, je pense, un mois et demi, le rythme de travail a repris assez intensément. Et du coup, je n'avais plus vraiment le temps de me poser des questions. En fait, je faisais des grosses journées, je retournais sur les chantiers. Ma relation avec ma chef repartait de plus belle, même de pire en pire. Donc, j'essuyais les pics, les attaques. J'avais vraiment la sensation de devoir désamorcer ces bombes toute la journée pour épargner mes équipes, en plus, qui étaient prises en cible à ce moment-là. Et je me suis beaucoup épuisée dans cette période, autant physiquement que moralement. J'avais un peu la sensation d'agir en pilote automatique pour être partout, mais finalement complètement déconnectée de moi-même. Surtout que mes nuits étaient encore affreuses, avec plusieurs réveils. Je ne sais même pas comment je tenais, en fait. D'ailleurs, je me suis vue perdre beaucoup de poids. Tous les jours, je serrais un peu plus ma ceinture, comme dans Into the Wild. J'avais l'impression que toutes mes fringues étaient trop grandes, que je me reconnaissais plus trop. Hein. Mon état intérieur, c'était stress et retard. J'avais l'impression d'être dans l'urgence en permanence. Je passais ma vie à courir de la crèche au travail. De mon bureau aux réunions, des réunions au chantier, des chantiers à la crèche. Enfin, c'était vraiment l'anticipation permanente de ma mission d'après. Donc, j'étais jamais connectée au moment présent et à ce qui se passait, puisque j'étais en train de penser à ce que j'allais devoir faire après et essayer d'être, de répondre un peu à tous ces rôles. Et puis, bon, entre-temps, on a quand même trouvé une place en crèche, mais je me sentais de plus en plus à distance de ma fille. J'avais l'impression de commencer à presque moins bien la connaître que ma propre mère. J'avais pas le temps d'aller la chercher le soir après la crèche, donc c'était ma mère qui me donnait les quelques informations de sa journée, si elle avait dormi, mangé, joué. Et en fait, je me retrouvais le week-end à presque plus connaître ses rythmes, à plus bien connaître ses habitudes. J'étais un peu perdue dans ce qu'elle avait besoin et ce qu'elle attendait de moi.
En tout cas, tous tes sentiments et tes préoccupations que tu as eues après la reprise du travail, c'est tout à fait normal. Parce que reprendre le travail après l'arrivée d'un bébé, ça peut être une période particulièrement délicate, avec la sensation parfois déchirante de ne pas profiter autant de ces moments précieux. Et donc, ce que tu as ressenti, c'est tout à fait normal. Et beaucoup de parents traversent cette phase. Entre le travail et la vie familiale, déjà c'est épuisant, c'est déstabilisant au début, et surtout que ce n'était pas tout rose avec ta supérieure, ça rajoutait une difficulté. Mais en aucun cas, ça signifiait que tu aimais moins ta fille ou que tu ne faisais pas de ton mieux. La réalité, c'est que beaucoup de parents éprouvent cette culpabilité de ne pas passer assez de temps avec leur enfant après la reprise du travail, mais il faut se rappeler que la qualité du temps que tu passes avec ton enfant, c'est aussi crucial que la quantité. Chaque moment que tu partages avec elle, c'est précieux, même s'il n'est pas aussi long que tu le souhaiterais. C'est normal de sentir que le rythme a changé et que tu es en train de t'adapter. Les parents, en particulier les mamans, on a cette tendance à se mettre une pression énorme pour être parfaite. Donc, tu fais de ton mieux, tu as fait de ton mieux, et c'est plus que suffisant. Ça peut être utile de trouver des petits rituels ou des moments spéciaux avec son enfant, même pendant les jours de travail, qui renforcent la connexion. Que ce soit une courte séance de jeu avant le coucher, une histoire partagée, un câlin, tous ces instants spéciaux peuvent faire toute la différence. En fait, il faut qu'on se ménage, qu'on prenne soin de soi, que ce soit physiquement que mentalement, parce qu'une maman épanouie, déjà, c'est ça la meilleure maman pour son enfant. C'est ça la meilleure maman pour son enfant, c'est une maman épanouie. Donc je pense que parfois, si on a besoin de décompresser, faut pas qu'on hésite à demander de l'aide à notre entourage, voilà, pour prendre soin de soi, tout simplement. Et surtout, on déculpabilise. En tout cas, je suis sûre, Élise, que tu es une maman formidable. À quel moment tu as décidé de consulter une pédopsychiatre? Qu'est-ce qui t'a amené à le faire?
Oui, j'ai décidé de consulter un pédopsychiatre en urgence parce que nos nuits étaient horribles. Ma fille, elle avait à ce moment-là eu quasiment 9 mois, 8 ou 9 mois, et elle se réveillait encore plusieurs fois par nuit. On était épuisés avec mon mari, et puis dès que j'étais là, elle était vraiment collée à moi. Elle hurlait dès que je sortais de son champ de vision. Et la crèche aussi nous avait signalé que Rim demandait beaucoup les bras, qu'elle avait un fort besoin d'attention. Et puis un jour, en discutant avec ma belle-sœur, voilà, de la maternité et toutes les difficultés qu'on rencontre, elle m'a conseillé une psychologue spécialisée pour les petits, pour le sommeil des petits qu'elle avait elle-même consulté. Donc c'est comme ça que j'ai pris rendez-vous. Et quand la séance a commencé, la psy m'a demandé de raconter toutes les étapes de mon désir d'enfant à ma grossesse, à l'accouchement, le retour à la maison, et effectivement tous les événements marquants qui auraient pu impacter ma fille. En fait, l'idée, c'était qu'elle puisse re-raconter à Rim toute sa petite histoire de vie en reprenant depuis sa conception. Donc, bien sûr, moi, j'ai joué le jeu d'être le plus sincère possible pour que ça puisse la libérer d'émotions qui m'appartenaient et qu'elle n'avait pas portées, puisque je voyais bien qu'elle était particulièrement sensible et qu'elle était presque un peu en insécurité émotionnelle, en fait. Elle avait tout le temps besoin des bras, elle avait tout le temps besoin d'être contre moi. Donc, j'avais vraiment à cœur que cette séance puisse... puis de venir la libérer et la rassurer. Et d'ailleurs, quand la psy lui a fait ensuite son récit par son propre prisme, en lui racontant un peu les événements de comment elle avait potentiellement pu les ressentir, elle, dans mon ventre, c'était vraiment un moment très fort et très impressionnant de voir que si petite, elle avait déjà beaucoup d'interactions, beaucoup d'expressions de visage, qu'elle était passée du sourire à des cris, à de la peur dans son regard. Enfin, c'était vraiment un moment très fort pour nous trois.
C'est tellement génial. Franchement, c'est génial d'entendre que tu as parlé à ta belle-sœur et qu'elle t'a donné de précieux conseils. Franchement, je souligne vraiment l'importance de parler, de partager nos expériences et nos préoccupations, parce que en parlant, on se rend compte souvent qu'on n'est jamais seul dans nos sentiments ou dans nos défis qu'on traverse. Il y a toujours d'autres femmes qui ont vécu des expériences similaires et qui peuvent apporter soit des conseils, soit qui vont nous donner des contacts parce que du coup, elles ont déjà consulté des professionnels de santé pour qui ça les a beaucoup aidés dans leur situation. En fait, le simple fait de savoir que d'autres personnes ont traversé des moments similaires, déjà, ça peut apporter un réconfort immense. Lors de la consultation avec cette psy, comment ça s'est passé?
Eh bien, c'est vrai que quand j'ai fait cette consultation psychologue, je ne m'attendais pas forcément à ce que ça devienne presque ma propre séance. Parce que je pensais être assez lucide des événements qui avaient eu lieu pendant ma grossesse et que j'avais essayé d'appréhender avec beaucoup de détachement émotionnel justement pour protéger ma fille. Et là, en le racontant, c'est comme si je réalisais pour la première fois que c'était des événements assez durs en fait et que j'avais complètement enfoui mes émotions, que je m'étais presque refusé de les vivre comme si c'était l'histoire de quelqu'un d'autre sans que j'y prenne part. Et c'est vrai qu'en venant reparler de tout ça, je m'entendais presque parler et me dire ah ouais, c'est ma vie en fait, c'est à moi que c'est arrivé. Et puis aussi mettre des mots sur le début de ma maternité, parce que j'en avais très peu parlé finalement. C'était une période très intime pour moi, qui avait été assez culpabilisante et déstabilisante, et je ne l'avais pas trop partagée finalement. Et donc là, venir mettre des mots dessus, ça me libérait beaucoup et ça me faisait aussi conscientiser toutes les étapes par lesquelles j'étais passée et que j'avais finalement un peu minimisé, un peu banalisé sous le prétexte des hormones, du baby blues, presque comme si voilà c'était normal pour les femmes quoi. Et puis, à la fin de mon assez long monologue, la psy, elle m'a regardée avec un regard un peu, comment dire, dur, un peu, qui marquait une pause, en fait. Et très solennellement, elle m'a dit, mais ça va, vous, madame? Et là, j'avoue que ça a été... je sais pas, une chute libre. Il y a eu comme un silence dans ma tête, comme vraiment mon cœur s'est arrêté. Il y a eu vraiment un stop dans ma vie à ce moment-là de me dire ah ben non, mais ça va pas du tout. Ah ben non, pas du tout même. En fait, je ne me pose pas cette question, je ne m'autorise pas à me la poser et presque personne d'autre ne me la pose non plus. Mais si je suis honnête, non, je me sens vide, je me sens faible, je me sens maigre, je me sens pâle, je sais plus qui je suis, je me reconnais plus physiquement, moralement, je suis éreintée. Et du coup, là, vraiment, ça a ouvert la porte à toutes mes émotions, en fait, que je n'avais pas libéré. Et du coup, je me suis mise à pleurer vraiment comme si on ouvrait les vannes depuis plusieurs mois, quoi. Et c'est là que j'ai réalisé que je ne voulais pas être cette personne-là, que c'est pas comme ça que je voulais mener ma vie, que c'était pas ça que je voulais offrir à ma fille, et que je voulais me retrouver, je voulais être souriante, je voulais être reposée, je voulais prendre du temps pour moi, je voulais retrouver ma personnalité. Mais voilà, là, à ce moment précis, je voyais pas de solution et j'avais un peu cette sensation que, c'était la vie des femmes, en fait.
Ah là là, c'est dur cette question. Hein. C'est vraiment dur. Est-ce que ça va? Quand on a l'habitude de dire oui, ça va, et toi, en souriant à notre entourage, au boulot, aux amis. Et quand un professionnel de santé, là, nous pose la question, là, c'est pas pareil. J'ai l'impression qu'il y a notre esprit, en fait, qui se dédouble. Et qui nous dit, en chuchotant, « Vas-y, c'est maintenant. C'est maintenant que tu peux tout dire, vas-y. » Et là, il y a les larmes qui commencent à monter. Et au fur et à mesure, en parlant, on se rend compte que ça va pas si bien que ça, en fait. Et que si on extériorise en pleurant, c'est que ça nous touche. Mais à ce moment-là, d'une certaine manière, on sait qu'on a bien fait et qu'on n'est pas là par hasard ou pour rien. Tout prend un sens. On sait que, ok, maintenant je prends conscience que ça ne va pas si bien que ça. Je suis en train de me dévoiler à un professionnel de santé et il est là pour m'aider. Ça va aller. Alors, tu as évoqué des épreuves familiales pendant ta grossesse. Comment ces événements ont-ils influencé ton expérience de la maternité?
Alors, l'ironie de la situation, effectivement, c'est que tous ces événements tournaient autour de la maternité et touchaient les mères quand moi, j'allais en devenir une. Je pense qu'inconsciemment, ça m'a beaucoup challengée sur ma propre maternité et que je n'ai malheureusement pas fait passer comme ma priorité. J'ai réalisé après coup qu'en voulant garder le contrôle de mes émotions pour ne pas flancher, parce que j'étais enceinte, parce que autour de moi, les gens avaient besoin de soutien, je m'étais complètement détachée de moi-même finalement et je m'étais imposée un rythme autant physique que émotionnel, beaucoup trop fort pour une femme enceinte et peut-être beaucoup trop fort tout bonnement pour moi, en fait. Alors, j'investissais quand même ma grossesse dans des moments à la maison où j'étais calme, où j'étais toute seule, où voilà, je parlais à ma fille. Et puis, pendant ma pratique de yoga, que j'ai toujours continué avec des petits moments de méditation où j'essayais de ressentir un peu plus mes perceptions corporelles de grossesse. Et aussi pendant mes séances de sophrologie, puisque j'avais fait tout un accompagnement de préparation à l'accouchement en sophrologie, Donc voilà, c'est des moments où je venais plus me connecter à moi, où je venais faire le calme, où je venais me connecter à ma fille, à prendre un peu plus conscience de ce qui se passait. Mais finalement, dès que je sortais de ces espaces-là, je redevenais Élise, super warrior qui soutient les autres, qui fait son job à fond, qui se plaint pas et surtout qui dérange personne avec sa grossesse. C'était un peu comme si c'était mon problème à moi d'être enceinte et ça ne devait pas impacter les autres ni le rôle que je me devais d'avoir auprès d'eux.
Ton retour au travail après la naissance de ta fille, comment tu l'as vécu ?
Oui, alors les premières semaines, quand j'ai repris le travail, j'avais vraiment le sentiment de pas savoir ce que je faisais là. Fallait que je redevienne comme si de rien n'était, comme si j'étais pas devenue maman, comme si j'avais pas un bébé de 2 mois à la maison. Et j'avais un parallèle de vie qui était assez dingue. Et j'avais un peu l'impression de jouer un rôle au travail, hein, que c'était pas... que j'étais plus du tout cette Élise-là, mais que ici, je devais le redevenir, quoi. Donc, c'était un peu perturbant. Et puis, d'ailleurs, au début, j'ai fait beaucoup de télétravail. J'avais du mal à aller au bureau, j'avais du mal à me confronter à mes collègues, et puis ça me permettait aussi d'aller plus vite chercher ma fille. Et parfois même, d'ailleurs, je télétravaillais chez mes parents pour passer une tête, lui faire un bisou entre deux réunions, pour prendre un peu le relais de ma mère sur la pause déjeuner. Finalement, après, quand le rythme normal de mon travail est revenu, je pouvais plus du tout me permettre de ne pas être à fond, en fait. J'étais tout le temps au téléphone, j'étais tout le temps en réunion, j'étais tout le temps en déplacement extérieur. Donc je me suis remis dans le mood sans vraiment pouvoir me demander si c'était OK ou pas. Et puis, à ce même moment, on a trouvé une crèche privée qui nous a dépannés. Et d'ailleurs, j'ai même pas pu faire l'adaptation de ma fille. C'était ma mère et mon mari qui se sont relayés. Ça, c'est vrai que c'est très dur pour moi de le dire aujourd'hui et de prendre conscience de ça, en fait, que je me suis privée de moments et j'ai privé ma fille de ma présence aussi, de moments pourtant très importants.
Les relations avec ta chef semblaient être une grosse source de stress. Est-ce que tu peux partager comment ça a impacté ta vie quotidienne et ta relation avec ta fille ?
Oui, alors j'avais une chef qui était très stricte, très protocolaire, tout le temps sur la défensive, dans la paranoïa. Donc j'avais la pression d'être au rendez-vous. Si je voyais qu'elle m'avait appelé et que j'avais loupé son appel, c'était la panique. Si elle me demandait de venir au bureau tel jour alors que moi je m'étais organisée autrement... Et que ce jour-là, j'avais un rendez-vous chez le pédiatre ou chez la sage-femme, parce que bien sûr, j'étais encore en pleine rééducation de périnée. Hein, je ne pouvais pas être présente comme elle me demandait et je me justifiais des mails entiers pour prouver ma bonne foi, pour expliciter toute ma situation. Mais en fait... ça sous-entendait presque que je manquais à mes responsabilités alors que j'étais à fond et que c'était complètement au détriment de ma fille et de moi-même et que j'étais épuisée moralement et que j'essayais de pas le faire voir, de pas le faire ressentir. Et donc ça a alimenté complètement ce truc de t'es devenue mère, c'est ton problème, nous on veut pas le savoir. Et voilà, j'avais l'impression que c'était ma responsabilité de devoir tout gérer et que je ne devais pas impacter les autres de ma situation, que ça regardait personne si je dormais ou pas la nuit et que voilà, je devais prendre sur moi pour faire en sorte que ce soit fluide, au travail, pour mes équipes, pour les clients, pour les chantiers et que le reste, ça m'appartenait. Que c'était à moi de me gérer, mais en fait, c'était complètement au détriment de ma santé physique et mentale.
Alors déjà, il est tout à fait normal d'être dévoué à son travail, mais il est aussi essentiel déjà de se fixer des limites et de s'assurer que l'environnement de travail est sain. avoir peur de sa chef, c'est pas normal. Il y a vraiment une emprise malsaine de sa part, et je pense qu'elle s'en rendait compte. Je sais que c'est un sujet délicat, mais il est vraiment important de reconnaître quand une situation au travail devient toxique. Il n'y a personne qui devrait se sentir mal à l'aise ou effrayé dans son environnement professionnel. Ou même quand on arrive chez soi, on pense encore au travail, on rêve du travail, on fait des cauchemars du travail, on stresse à se rendre vraiment malade, que ce soit pour des réunions à venir avec son chef. Voilà. Il peut y arriver qu'on ait des petits moments de stress. Voilà, on a une présentation à faire devant quelques personnes, ça nous stresse un petit peu, voilà, on appréhende. Mais là, je parle vraiment d'un stress extrême à vraiment en faire des cauchemars, en fait, à vraiment tout appréhender. Là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, cher auditeur, si vous avez le sentiment que votre supérieur abuse de son pouvoir, ça pourrait être une situation à prendre au sérieux. Je tiens à rappeler que, Élise, tu étais en droit de prendre soin de toi et de ta famille, devoir assister à des rendez-vous médicaux, que ce soit pour toi ou pour tes enfants, et c'est vraiment tout à fait légitime. La santé doit toujours être la priorité et tout employeur compréhensif devrait respecter ça. Tu as mentionné que l'écriture a joué un rôle important dans ta libération émotionnelle. Comment ça t'est venu à l'idée d'écrire ? En quoi ça t'a aidé ?
Oui, alors je me suis mise à écrire, effectivement, parce que les semaines après le rendez-vous psy ont été assez dures. J'avais la prise de conscience que c'était pas OK. Tout était là, mais je ne savais pas quoi en faire. Et j'avais essayé de discuter un peu plus avec ma mère et ma grand-mère, dont je suis assez proche. Et en fait, j'avais eu l'impression de les mettre très mal à l'aise en me livrant sur mes émotions, sur ma vulnérabilité et sur ce que je ressentais. Donc, elle m'avait un peu couper la parole ou vite changer de sujet, comme si ça, c'était pas le sujet sur lequel fallait s'attarder, quoi. Donc, je crois que tout bonnement, elles savaient pas quoi me répondre. En fait, elles avaient pas su faire autrement pour elles-mêmes. Elles avaient aucun conseil à me donner pour ma propre vie. Mais moi, en fait, à ce moment-là, leur silence, ça m'a vraiment beaucoup mise en colère. Je me suis dit, OK, donc, comme d'habitude, on va pas se parler des sujets profonds, on va pas se parler des blessures, et puis on va se soutenir comme des femmes fortes, en subissant, dans le silence, sans se plaindre, et puis même, baisse les yeux, ça sera encore mieux, tu verras. Donc, je suis repartie de là, hyper frustrée, énervée, avec un profond sentiment voilà, d'injustice et d'incompréhension, en fait. Je me sentais seule dans ce que je ressentais. Et en fait, pour elle, voilà, c'était presque normal. Fallait prendre son mal en patience. C'était le sort des femmes de souffrir, et c'était comme ça. Et je m'étais sentie presque ridicule que de venir m'étaler peut-être c'est ce qu'elles avaient ressenti aussi. J'avais l'impression que voilà, c'était vraiment oui chérie, tu comprends la vie que maintenant, en fait, t'es mignonne, tu comprends ce que c'est que d'être une femme. Voilà, j'ai eu vraiment un sentiment un peu de mépris presque sur mes émotions à ce moment-là. Et j'ai ressassé pas mal en me disant je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ça. Je refuse de me dire que c'est normal. Je refuse de me dire que ça va être ça ma vie et que je vais endosser et que je dois attendre que ça passe. Je me suis vraiment dit, si elles ont eu envie de s'imposer une vie là, ça leur appartient. Mais moi, c'est hors de question. C'est hors de question que je fasse comme ça. Et presque, si elles le savaient et si elles se croyaient plus malines, pourquoi elles ne m'ont pas prévenue ? Et du coup, moi, je vais faire autrement. Je vais faire autrement avec ma fille et je vais faire autrement dans ma maternité parce que ça ne sera pas la mère que je veux être. Et du coup, l'été est arrivé, donc j'ai pu prendre un peu de recul, souffler, réfléchir. Et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis mise à écrire. En fait, au début, j'écrivais des petites scènes un peu sarcastiques sur les schémas familiaux, puisque j'étais en vacances dans ma famille et que j'avais une source d'inspiration sous les yeux pas mal, qui me faisait rire, en fait. C'était presque des petits sketchs. Et en libérant un peu ma plume, j'ai eu l'impression de vraiment ouvrir quelque chose en moi. Et là, je me suis mise à écrire de manière beaucoup plus profonde. Et j'ai commencé à écrire des scènes sur les femmes de ma famille, en fait, comme des récits de moments de leur vie que je ne connaissais pas. Parce que j'avais l'impression d'avoir des trous, d'avoir des manques sur qui elles étaient, en fait, pour comprendre. C'est comme si j'avais eu le synopsis du film, mais j'avais pas eu le détail, j'avais pas eu le contenu, j'avais pas eu les émotions qui allaient avec. Parce que voilà, il y avait toujours ce schéma de on s'attarde pas sur les blessures, on se relève et on avance. Mais voilà, moi j'avais besoin de comprendre, et du coup je me suis mise à romancer leur vie, en fait, à peut-être à chercher des justifications à leurs réactions, à leur comportement. Et voilà, j'ai commencé à écrire des scènes sur la potentielle enfance de ma mère, de sa relation à sa propre mère, à son père, à sa sœur. Et ça me faisait beaucoup de bien, en fait. J'essayais de trouver des réponses pour comprendre et pour m'autoriser à voir les choses autrement, en fait, pour me défaire de son histoire à elle et de leurs histoires à elle, en fait, qui n'étaient pas la mienne. Et peut-être, voilà, pouvoir en sortir si j'avais les éléments, si j'avais tout sous les yeux, alors je pouvais prendre un autre chemin. Et c'est comme ça, du coup, que j'ai commencé à écrire vraiment un roman sur les relations entre femmes et sur tout ce qu'on se transmet, consciemment et inconsciemment. Et aujourd'hui, ben, j'ai terminé ce manuscrit et je l'ai envoyé à des éditeurs. Donc, je croise les doigts pour que vous puissiez lire ce livre.
En tout cas, ça donne envie de le découvrir. Tu as exploré le transgénérationnel féminin dans ta famille. Comment ça a affecté la manière dont tu as abordé la maternité et ta propre identité de femme ?
Oui, alors en écrivant, j'ai aussi beaucoup lu. J'ai beaucoup lu sur le transgénérationnel, sur les blessures familiales, sur la féminité, sur la maternité, sur la place de la mère dans la société. Et ça me faisait vraiment réfléchir à beaucoup de choses, prendre conscience de beaucoup de choses. Et puis en parallèle, je me formais à la sophrologie puisque je m'étais mise en arrêt et je ne voulais pas rester à rien faire. Donc je suivais une formation de sophrologie et de yoga avec toute la spiritualité qui accompagnait ces pratiques. Et vraiment, j'avais la sensation que toutes mes lectures, toutes mes formations, tout ce que j'ai dépouillé de moi, en fait, prenait sens dans ma tête, comme si je réalisais le poids de l'histoire familiale qui est presque génétique, finalement, hein, avec toutes les croyances ancrées en chacune de nous qu'on s'était transmises, avec le rapport à ma féminité dont j'avais hérité, rapport à la maternité, avec ce schéma de femme oubliées, qui se prennent pas en compte, qui s'autorisent pas à s'épanouir, à se réaliser, qui s'autorisent presque pas à exister d'ailleurs, hein, qui sont dans un dévouement perpétuel, mais qui est aussi à l'image de l'héritage de la société patriarcale, et des années d'oppression des femmes, de soumission des femmes, de frustration, de blessure, de non-dit. Et tout ça, c'est ce qui constitue l'inconscient du collectif féminin et qu'on porte en nous, en plus de l'héritage de nos propres lignées familiales et en tant que femme, beaucoup celui de nos mères. Et du coup, ça a été un sacré travail pour venir démêler tout ça. Et puis, me retrouver, moi, en profondeur, en fait. Plus j'écrivais, plus je me défaisais de choses qui étaient là depuis l'enfance, qui me semblaient presque normales. Et puis, en fait, non. Et puis, je me rappelais, j'avais des souvenirs, des émotions qui me revenaient. Je me rappelais de ma mère, de ma grand-mère, de qui elles étaient, de qui j'étais moi en tant qu'enfant. Et de la peine que j'avais pour ma mère, parce que j'avais envie de la soutenir, j'avais envie de l'aider, de la protéger, de l'épargner, en fait. Et je pense que c'est aussi ce que ma mère a ressenti pour sa propre mère, et c'est aussi ce que ma grand-mère a ressenti pour sa propre mère, comme une forme de loyauté féminine à la souffrance et au dévouement. Et voilà, plus j'écrivais ça, plus je prenais conscience de ça, plus j'avais l'impression qu'à l'intérieur de moi, mon cœur criait, quoi. Vraiment, c'était stop, en fait. Stop de vouloir être la gentille fille qui sauve sa maman au détriment de soi-même. Stop d'élever les petites filles dans le dévouement collectif des femmes. Stop de se taire, d'endurer, de ne pas chercher à faire autrement. Stop de se sentir coupable en voulant être heureuse. Et puis stop d'exclure les hommes comme si les enfants étaient une histoire de femmes et comme si c'était toute la responsabilité des femmes d'assurer le foyer. Voilà, stop. J'étais dans cette volonté de couper les liens, de mettre fin à cette transmission dont je ne voulais pas, en fait, dont je ne voulais plus, qui ne me correspondait pas. Qui ne correspondait pas au schéma familial que je voulais créer avec mon mari, avec ma famille. Et que, voilà, moi, je voulais que mon mari soit là, soit un père présent, qu'il me soutienne, qu'il ait son rôle à jouer pour ma fille, parce que les enfants ont besoin de leur père aussi. Et que les femmes ont le droit de penser à elles, que les femmes ont besoin de trouver leur équilibre, de trouver leur bien-être. Et de vrai, pour leur propre épanouissement et pour être... Et voilà, j'avais cette sensation que pour être une bonne mère, je devais me retrouver et me prendre en compte.
Après plusieurs mois d'introspection, tu as appris à regarder toutes les parts de toi. Est-ce que tu peux partager avec nous le processus de reconstruction personnelle que tu as entrepris?
Oui, alors l'écriture, bien sûr, m'a aidée à conscientiser pas mal de choses. Mais à côté de ça, j'ai vu une psychologue pendant plusieurs années, avec qui, du coup, je pouvais discuter un peu de tout ça. Et puis, je faisais beaucoup de sophrologie, à côté pour moi-même et aussi par ma formation. Et le yoga aussi, qui m'a toujours accompagnée depuis des années maintenant. Et qui est vraiment ma pratique de cœur pour venir me reconnecter à moi-même, venir accueillir un peu mes émotions, mais avec un détachement un peu mental, pour le coup. Et voilà, et me retrouver dans quelque chose de plus authentique, de plus profond, de plus sincère. Et j'avais vraiment cette volonté d'être consciente le plus possible de tout ce que j'avais vécu, de tous les éléments de ma vie, de mon enfance, alors même si j'ai pas eu une enfance particulièrement difficile, mais voilà, tous les petits traumatismes qu'on accumule et qui conditionnent la personne que l'on devient. Et j'avais vraiment à cœur de faire face, en fait, à toutes ces parts de moi pour me retrouver, pour me comprendre et pour me sentir pleinement consciente de qui je suis et pour ne pas reproduire des schémas dont je ne veux plus, pour ne pas projeter sur ma fille des blessures que j'aurais pas soignées ou des choses que je rejoue et dont ma fille pourrait être victime, hein, finalement. Donc voilà, j'ai vraiment fait un gros travail, effectivement, d'introspection personnelle pour venir me libérer un peu de tout ça et venir me confronter pour ne plus me faire impressionner par mes peurs, pour ne plus laisser mon mental prendre l'ascendant sur moi et regarder d'un autre œil, en fait, avec un pas de recul. Et ça, c'est vraiment, le cumul de la sophrologie, du yoga, de la méditation, qui sont vraiment des outils extraordinaires pour se reconnecter à l'essentiel, pour faire taire toutes les injonctions de la société, de notre éducation, qu'on a complètement intégrées en nous et qui nous font agir simplement en réaction à des choses, sans se poser la question presque de l'intérieur de soi, en fait, et de nos propres besoins, et de nos propres émotions, et de ce pourquoi on est fait, on vibre, et ce qu'on a envie d'être et d'incarner. Donc, voilà. La sophrologie aussi, dans tout ce qui est la perception sensorielle et émotionnelle, c'était vraiment aller... L'idée de la sophrologie, c'est aller retrouver aussi des émotions, des souvenirs positifs pour déprogrammer des choses en nous et les remplacer. C'est vraiment une idée de substitution sensorielle pour se défaire des constructions cognitives de notre cerveau depuis l'enfance. Donc voilà, je pense que je me suis vraiment... comment dire, impliqué dans ce travail d'introspection. Et aujourd'hui, je suis libérée et j'ai à cœur d'œuvrer pour transmettre ça et transmettre ces outils aux femmes aussi dans cette libération.
Quel conseil ou message tu aimerais faire passer, partager à d'autres femmes qui pourraient vivre des expériences similaires ?
J'ai vraiment... la volonté de transmettre aux femmes tous les outils, toutes les pratiques qui viendraient les aider à prendre conscience de tout ce qu'elles ont en elles, de leur force, de leur résilience, de leur capacité à s'adapter, à aimer, à soutenir, à créer du lien. Parce que ce sont des qualités qui ne doivent pas être au détriment de nous-mêmes, en fait. C'est vraiment les qualités féminines qui sont notre pouvoir intérieur. Une fois qu'on en a conscience, c'est vraiment pouvoir diffuser quelque chose de très beau, de très profond, une forme de sagesse intérieure qui est magnifique. Mais pour ça, ça demande aussi de se dépouiller. Et ça demande d'aller se défaire et d'aller déloger un petit peu ce qui nous pollue et ce qui nous empêche d'être nous-mêmes et de voir notre vraie richesse intérieure. Donc ça veut dire aller regarder les blessures, aller regarder ses peurs, s'interroger sur sa famille, sur son éducation, sur le rôle que l'on a à son travail, dans la société, avec ses amis, sur la valeur que l'on se donne. Pour venir libérer toutes les émotions qui stagnent et qui se réactivent. Et puis venir libérer sa voix, venir libérer son corps, venir libérer son cœur, son intuition et retrouver une fluidité, une harmonie intérieure qui permettent de se reconnecter vraiment à l'essence de sa féminité. Et je pense que c'est vraiment en acceptant de mettre en lumière toutes les parts de nous, qu'on accède à une connaissance intérieure de soi qui est juste la plus belle force qu'on puisse avoir pour mener sa vie. Et puis, je suis intimement convaincue que la femme est l'avenir de la planète pour apaiser la violence, pour apaiser la haine, les guerres. Si les femmes reprennent conscience de toute leur richesse et de toute leur sagesse intérieure, je pense qu'on peut aller vers des jours meilleurs.
Comment tu envisages l'avenir de ta maternité de toi-même en tant que femme après cette période de réflexion et de transformation ?
Je veux œuvrer pour cette libération émotionnelle et intérieure des femmes à travers mes accompagnements que j'ai créés, que j'ai rédigés et qui mêlent du coup de la sophrologie, du coaching, du yoga. Et puis j'espère aussi à travers mes textes qui, j'espère, verront le jour et pourront... faire écho aux femmes et les aider à mettre elles-mêmes des mots sur leurs blessures et sur tout ce qu'elles ressentent à l'intérieur d'elles-mêmes pour venir se reconnecter à leur âme et à leur cœur. Et puis pour ma fille, j'espère lui offrir une maman heureuse, une maman épanouie. Et que ça lui apprenne à être une femme alignée avec elle-même. Voilà.
Eh bien, en tout cas, merci infiniment, Élise, d'avoir partagé avec nous ton histoire. Cher auditeur, le récit d'Élise nous invite à réfléchir sur la complexité de la maternité, les pressions sociales et les défis qui peuvent émerger dans le quotidien d'une mère. Nous avons exploré ensemble la nécessité de se confronter à son passé, de briser les schémas transgénérationnels et d'accorder de l'importance à la santé mentale des mères. Élise nous a montré le pouvoir de l'écriture comme moyen de libération et d'introspection, sa volonté de se reconstruire et de s'autoriser à être authentique, c'est un témoignage de force et de résilience. Elle nous rappelle que prendre soin de soi en tant que mère n'est pas un acte égoïste, hein. C'est une nécessité pour offrir le meilleur à nos enfants. Et en écoutant son histoire, nous espérons que cela ouvrira des discussions, que ça suscitera la compréhension et que ça encouragera d'autres femmes à chercher de l'aide, à partager leur expérience et à se libérer des poids qui entravent leur bien-être. N'hésitez pas à retrouver Élise sur les réseaux sociaux, je vous mettrai tout en description, je compte sur vous. Restez connectés en vous abonnant pour encore plus de partages inspirants. À tous les auditeurs, merci de nous avoir suivis sur État d'âme, où chaque femme est unique, mais certains parcours de santé s'entremêlent. À bientôt pour un prochain épisode, prenez soin de vous. Bienvenue, chers auditeurs, dans une toute nouvelle saison d'État d'âme. État d'âme vous fait vivre des moments forts avec des témoignages de femmes exceptionnelles et des conseils précieux de spécialistes de santé. Mais cette saison, préparez-vous à être transporté encore plus loin par État d'âme Stories. Ce sont tout simplement des récits fictifs, des histoires captivantes qui vous bouleverseront. Des situations auxquelles vous pourrez vous identifier. Ces histoires, façonnées par ma plume, vous plongeront au cœur des défis, des victoires et des émotions de la vie quotidienne des femmes. Avec derrière chaque histoire, un message important. Je vous invite à écouter attentivement, à apprendre et à grandir avec chaque épisode. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de cette saison spéciale qui déploie ses ailes pour vous offrir un contenu unique en son genre. État d'âme Stories. Chaque histoire est une leçon, chaque femme est une source d'inspiration. Restez à l'écoute, vous êtes sur État d'âme.